Avec l'assurance mixte, protégez celles et ceux qui vous sont chers. Grâce à Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une journée mondiale de l'excision, la 15e. Pourquoi faire, puisque malgré les campagnes et les lois, encore 3 millions de sexes féminins sont mutilés chaque année dans le monde. 3 millions de fillettes, de jeunes filles, de femmes amputées d'une partie de leur corps, lésées sans comprendre, au-delà de la douleur, le sens de ce geste. Les risques encourus sur le moment, les dangers ultérieurs lors d'une maternité, de la vie de femme, du traumatisme inscrit dans la chair pour toujours, ces séquelles des mains expertes de chirurgiens tente de les atténuer, mais combien d'opérations pour combien d'excisions? Alors reste la prévention et l'information, changer les mentalités, changer les pratiques, chasser les idées reçues, les mauvais procès qui tentent de faire croire qu'un crime sous une latitude peut être appelé tradition sous une autre, démentir les contre-vérités qui laissent entendre que circoncision et excision seraient équivalentes, car les mutilations sexuelles féminines concernent des organes et non un repli de peau, et que pour parler crûment, car cette pratique est d'une crudité inouïe, l'ablation du clitoris chez la femme reviendrait à priver l'homme d'une partie de son pénis. Personne ne l'envisage pour son fils, personne ne devrait l'infliger à sa fille. Journée mondiale de l'excision, avec dans ce studio pour en parler le docteur Rada Hatem, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin-chef à la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis en région parisienne. Également avec nous le docteur Sarah Abramovitch, bonjour.
Bonjour.
Chirurgienne spécialiste en chirurgie réparatrice de l'excision et des mutilations génitales féminines à la maternité André Grégoire à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Des médecins avec nous et aussi des militants anti-excision, des acteurs de terrain. Avec nous Finda Ifono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du projet Sauvons les filles de l'excision au sein de l'ONG Plan International Guinée qui œuvre pour la défense des droits de l'enfant. Et Farah Djibakamano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG guinéenne AFASCO pour l'accompagnement des forces d'action socio-communautaire. Et bien sûr, votre numéro, le numéro de priorité santé, c'est le 33 84 22 75 75. C'est aujourd'hui 6 février qu'est lancée la campagne de prévention Alerte Excision, campagne qui s'adresse aux adolescentes. On va y revenir dans quelques minutes avec l'association Excision, parlons-en. Mais je m'adresse d'abord à celle qui reconstruit ces sexes féminins mutilés, docteur Sarah Abramovitch. On va avoir l'occasion d'évoquer la réparation un petit peu plus tard. Mais d'abord, quelles sont, on part toujours de l'anatomie, quelles sont les parties de l'intimité féminine qui sont tranchées, qui sont mutilées lors des excisions?
Alors, en fonction des ethnies, l'excision change. Pour résumer, en France, on a une immigration qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est plutôt des femmes qui ont subi une excision de grade 2, à savoir qu'on a tranché le clitoris et les petites lèvres. Il arrive dans d'autres ethnies qu'on ne tranche, si je peux me permettre de dire, que le clitoris. Dans d'autres ethnies encore, d'autres parties de l'Afrique, plutôt en Afrique de l'Est, ce qu'on appelle une excision de grade 3, c'est-à-dire qu'on recoud, on ferme le vagin à l'aide soit des petites lèvres, soit des grandes lèvres.
Ce qu'on appelle aussi l'infibulation.
Tout à fait.
Et qui se retrouve moins donc en Afrique de l'Ouest. Alors, docteur Rada Hatem, premier message de sensibilisation pour expliquer, à nous décrire les séquelles des excisions que vous prenez en charge lors de vos consultations, pour parler simplement... Quels risques ces mutilations génitales féminines font courir à celles qui les ont subies? On va dire d'abord à court terme, hein, quand ça se passe. On parle là souvent de jeunes filles, voire même de bébés.
Oui, l'excision peut être pratiquée à différents âges et on observe surtout maintenant un recul de l'âge de l'excision chez des jeunes adolescentes. Et puis il y a même des ethnies où on excise juste avant le mariage, ce qui rajoute une difficulté quand même pour ces jeunes femmes, parce qu'avoir un rapport sexuel le lendemain de son excision est éminemment douloureux. Alors, les complications à court terme, c'est surtout la mort par hémorragie et la mort par infection, puisque la plupart du temps, ces gestes ne sont pas réalisés de manière chirurgicale, c'est-à-dire avec toutes les précautions qu'on prend dans un bloc opératoire, d'asepsie, de désinfection, d'antibiotiques éventuellement. Et puis, on peut aussi mourir de douleur, parce que parfois la douleur est tellement intense que on peut également en mourir. Et puis un petit peu plus tard, on a tous les problèmes liés à la cicatrice qui est là, à cet endroit-là, à savoir la douleur, la difficulté dans les rapports, les infections urinaires à répétition, s'il y a une fermeture, s'il y a des cicatrices qui tirent, et la douleur pendant les règles. Et puis plus tard, toutes les complications autour de l'accouchement. Mais il y a une chose qui est constante dans les séquelles, c'est l'impact psychique sur ces femmes, même quand elles ont été excisées bébés.
Avec des réminiscences, il y a une sorte de prise de conscience. Des auditrices nous ont laissé des messages, elles racontent, certaines s'en sont rendues compte en accouchant, certaines s'en sont rendues compte en allant voir pour la première fois un gynécologue, un médecin, lors d'un premier rapport. On prend conscience de quoi à ce moment-là, quand on comprend, on connaissait la douleur, mais on essaye de mettre quelque chose dessus. Qu'est-ce qui se passe ?
En fonction des femmes, on prend conscience de différentes choses, mais la chose peut-être la plus constante, c'est qu'on prend conscience qu'on est différent. Et c'est peut-être ce qui est le plus douloureux pour ces jeunes femmes, parce que brutalement, alors qu'elles se pensaient des jeunes femmes comme les autres, notamment pour les jeunes filles nées en France et qui ont été excisées à l'occasion d'un voyage, leur mot, c'est « mais je suis une Française comme les autres, et pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi est-ce qu'on s'est autorisé à me couper une partie de moi sans me demander la permission ?» Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Certaines ont mal, d'autres moins, certaines ont des orgasmes, d'autres pas, mais ce sentiment d'avoir été trahie, amputée, est très constant.
Alors, docteur Sarah Abramovitch, vous avez des chiffres sur le nombre, le pourcentage de femmes excisées, par exemple, qu'est-ce que vous constatez sur votre lieu de consultation, sur votre lieu d'exercice ?
Alors, on sait que dans les grandes maternités de Seine-Saint-Denis, que ce soit à De La Fontaine, à Saint-Denis ou à Montreuil, les chiffres qu'on a sont les mêmes, hein. Il y a à peu près 13 à 14% de femmes qui accouchent dans ces maternités qui sont excisées. Malheureusement, les chiffres ne diminuent que très peu. Malgré toutes les campagnes, malgré le fait que ce soit évidemment interdit en France, parce que, comme le disait Rada Atem, d'abord les filles sont excisées de plus en plus tard pour parce qu'on surveille en France les bébés, on vérifie que les bébés soient pas excisés et on surveille de façon annuelle. Du coup, la solution qu'ont trouvé les gens pour exciser les filles, c'est de les exciser plus tard, malheureusement. Donc, malgré tout ce qui se fait pour interdire l'excision et pour la diminuer, le fait que la population augmente, le fait qu'on excise les filles plus tard, fait que l'excision ne diminue que très peu.
Est-ce qu'il faut, docteur Rada Atem, former des professionnels de santé spécialement pour assurer une prise en charge ? On ne peut pas parler véritablement d'un dépistage, mais cette véritable prise en charge, notamment, vous disiez tout à l'heure, certaines complications qui peuvent intervenir au moment de l'accouchement, il faut spécialement former des infirmières, des sages-femmes pour l'écoute et pour aussi une prise en charge physiologique ?
Il faut former les gens qui sont amenés à rencontrer ces femmes et les premiers qui les rencontrent, ce sont les sages-femmes et les gynécologues, puisque c'est le moment où vous révélez votre intimité à un autre être humain en dehors de votre conjoint. Donc oui, il faut que les sages-femmes et les gynécologues soient formés à reconnaître l'excision et à entendre les femmes et surtout à aborder le sujet, parce que c'est une chose de dire à une jeune femme quand on n'a pas trop l'habitude « Oh là là, mais vous avez un sexe étrange et qu'est-ce qu'on vous a fait là ?» Ce qui, pour la jeune femme, notamment si elle ne sait pas qu'elle est excisée, est une façon un peu violente d'entrer dans le sujet. C'en est une autre de lui dire « Mais je vois que vous venez d'un pays où l'excision est pratiquée couramment. Est-ce que vous savez ce qu'il en est ? Quelle est la position de votre famille ? Avez-vous des informations sur votre corps ?» Enfin voilà, ce n'est pas pareil. Et l'impact sur les femmes est très différent. Donc il faut former les gens, c'est évident.
Finda Ifono, chef de projet, militante de terrain, mère de famille, vous êtes excisée. Est-ce que c'est simple de parler de ce qu'on a subi quand on était plus jeune, cette excision ?
C'est pas aussi simple de parler de l'excision quand on sait que c'est un souvenir très douloureux. C'est pas aussi facile d'en parler. Mais de toute façon, lorsqu'on est activiste, il faudrait parler de ce qui te concerne, de ce que tu as subi, pour amener à une prise de conscience et pour que beaucoup comprennent que c'est un phénomène douloureux qu'on devrait lutter à éradiquer.
Comment est-ce qu'on fait pour militer sans colère, par exemple, quand on tombe sur des assemblées d'hommes ? Beaucoup d'auditeurs de RFI, de Priorité Santé, appellent en disant « l'excision, il faut continuer, c'est comme ça que ça se fait, pourquoi vous nous donnez des conseils, vous, à Paris, etc. » Vous, quand vous êtes sur le terrain, en Guinée, en région, comment, à un moment donné, vous arrivez à contenir une forme de colère? Vous arrivez à faire passer cette pédagogie, ce message, même si vous, vous avez souffert?
La communication sur l'abandon de l'excision n'est pas du tout aisée, mais il faut utiliser des stratégies. Donc sur le terrain, nous privilégions surtout l'approche de dialogue, le dialogue avec les communautés, avec les parents. Il arrive des moments de réticence, mais nous parvenons à contenir parce que nous avons des stratégies d'écoute et de conseils que nous mettons en œuvre et qui réussissent dans nos communautés.
Vous êtes actrice, vous êtes aussi témoin. Vous avez subi à quel âge cette excision?
J'ai subi l'excision à l'âge de 13 ans. Donc, comme beaucoup de filles de mon âge, c'était pas du tout facile.
Vous étiez plusieurs dans une salle? Vous gardez des images de cet événement?
Oui, je garde des images parce que ce sont des images de toute façon qu'on peut pas oublier. C'est très choquant, c'est très douloureux. Moi, j'ai fait l'excision en groupe de deux. J'étais juste avec une autre fille. Donc, les images, elles sont douloureuses et elles reviennent à chaque moment.
Et est-ce qu'à un moment donné, on a mis un mot sur ce qui vous arrivait quand vous, on vous a conduit dans cet endroit? Est-ce que vos parents vous ont parlé? Est-ce que l'entourage a parlé? Ou c'était dans une sorte de silence? Vous êtes arrivé, c'est arrivé, vous avez souffert et vous êtes reparti.
Bien, comprenez que l'excision, il y a tout un secret qui l'entoure. On ne sait jamais, la petite fille ne sait jamais ce qu'elle doit subir dans la case. C'est tout un secret. Et même moi, après l'avoir subi, on me dit, si tu dénonces ce que tu as subi ici, tu es morte. Donc du coup, ça reste un secret jusqu'à ce que tu rentres dans la case de l'excision.
Loi du silence, est-ce que il vous a fallu combien de temps pour comprendre ce que ce silence douloureux signifiait pour vous et pour votre corps et pour votre esprit?
Après l'excision, j'ai pas réalisé que j'en étais une victime. Il a fallu à 32 ans ou 33 ans, lors de mon premier accouchement par césarienne, j'ai compris que j'étais une victime de l'excision. Et du coup, j'ai pris la décision d'être une activiste.
Lutter contre ces mutilations sexuelles. Autre représentant de la Guinée avec nous, Farah Djiba Kamano, votre ONG, la FASCO, a lancé des initiatives de terrain pour justement poursuivre certaines traditions, certaines, tout en abandonnant l'excision. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi ça consiste? Vous avez appelé ça des camps d'initiation.
Exactement, et parmi les stratégies de lutte figurent des alternatives, telles que les camps d'initiation sans excision, parce que dans la région dans laquelle nous intervenons, la principale cause pour laquelle les gens pratiquent l'excision, c'est que c'est pour l'éducation. Et comme les gens justifient l'excision par l'éducation, on a essayé donc de voir par quels moyens il faut substituer cette pratique et comment il faut garder les pratiques positives qui sont autour, les rites positifs qui sont autour de cette cérémonie, de cette excision. Et ce qui nous a amené donc de concert avec les communautés, il y a eu des approches endogènes et ils ont proposé des solutions pour dire on va éduquer, mais sans exciser. S'il faut exciser avant d'éduquer, on va éduquer sans exciser. Cette approche est devenue une approche promoteuse dans la région dans laquelle nous travaillons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons donc à promouvoir les camps d'initiation sans excision, les rites alternatifs d'initiation sans excision.
Parce que c'est bien important, il y a le médical, le sanitaire et le psychique, on l'a compris. Mm-hmm. Et puis il y a l'aspect communautaire, et c'est justement ce contre-argument qui est présenté à chaque fois. Si les filles ne sont pas excisées, elles vont être exclues. Vous, justement, Farah Djiba Kamano, votre démarche est complètement inverse. On est toujours inclus dans sa communauté, mais on se bat juste contre cette excision, mais on reste dans la norme communautaire.
En effet, et dans la communauté, il y a des pratiques positives, il y a aussi des pratiques négatives. Et l'excision garde sa sensibilité dans cette partie. Le fait que les communautés tiennent, c'est leur valeur, ils se reconnaissent par cela. Et ils ne veulent pas abandonner parce que tout simplement, ils disent qu'ils ont hérité des aïeux. C'est des pratiques qu'ils doivent continuer à promouvoir. Et dès lors qu'ils ont compris que on peut exciser, on peut continuer à promouvoir les bonnes pratiques sans pour autant porter préjudice à la santé, à la vie d'une personne, et on a trouvé que l'argument était très fort et que c'était une pratique promoteuse parce qu'on voyait un peu un engouement autour de la situation, les populations intégraient la démarche parce que c'était ça pour les faire comprendre la réalité. Et donc ils étaient beaucoup plus engagés avec cette démarche où ils se retrouvaient déjà et dans la logique. Donc du coup, ça nous permettait de prévenir assez de cas d'excision et toute la population était là et les gens et l'excision est une norme sociale. Donc pour la changer, il faut avec l'ensemble de la population. Donc voici les deux choses qui sont là autour de l'excision. Donc exciser, c'est pas bien, d'accord, mais éduquer était une bonne valeur pour laquelle les gens tiennent. Donc s'il faut exciser, s'il faut éduquer sans exciser, c'était encore une des meilleures solutions dans les localités dans lesquelles nous intervenons.
Un homme engagé contre l'excision, d'où vient justement cet engagement, Faradji Bakamano?
L'engagement tire ses origines au niveau aussi de la prise de conscience des dangers liés à l'excision. Au fait, pour ceux qui excisent selon l'expérience, c'est qu'ils le font pour les hommes. Ça, c'est la première idée. La seconde idée, c'est que l'homme vit avec ses enfants. L'homme a une responsabilité dans la famille. Quand on doit envoyer une fille à l'excision, en réalité, l'homme devait participer à la prise de décision pour donner son avis, pour examiner là où on envoie l'enfant et ce qui va l'arriver et les atouts et les inconvénients et décider. Et là, l'homme n'a pas participé à cela. Donc l'engagement, il est là, c'est parce qu'on a pris conscience, on a des femmes, il faut les accompagner, qui vivent des séquelles, il faut aussi les soutenir.
Des pères, des maris justement, qui protègent les enfants, les jeunes filles, également des associations comme la campagne Alerte Excision. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marion Schaeffer. Marion, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes déléguée générale de l'association Excision, parlons-en. Une campagne donc qui s'adresse directement aux adolescentes, est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, bien sûr. Alors, cette campagne s'appelle Alerte Excision. On la lance pour la deuxième année consécutive, puisqu'elle a eu beaucoup de succès l'année dernière. C'est une campagne qui a pour but, en fait, de parler aux ados et de leur mettre un peu la puce à l'oreille, de leur dire « peut-être que tu es à risque ». Et si tu es à risque, eh ben nous, on a des outils, on a des professionnels qui sont là pour te conseiller et pour te protéger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a quand même 3 adolescentes sur 10 dont les parents sont issus de pays pratiquant traditionnellement les mutilations sexuelles féminines, qui, l'été, risquent une excision lors d'un retour dans le pays d'origine de leurs parents. Elles ne sont la plupart du temps pas au courant, et donc l'idée de cette campagne qu'on mène avec des partenaires, dont la Maison des Femmes qui est avec vous aujourd'hui, en la présence de Rada Hatem, dont JC Deco, dont le Centre Hubertine Auclair, et puis avec tout un réseau d'adhérents, on fait cette campagne pour protéger ces jeunes filles et pour leur dire « attention, t'es peut-être à risque, mais on a des solutions à t'offrir pour trouver une protection adaptée ».
Marion Schaeffer, vous citiez cette proportion de jeunes filles entre guillemets à risque. Est-ce qu'on a des données chiffrées? Combien de ces jeunes filles résidentes en France sont menacées à l'occasion de vacances, des vacances pour elles qui tournent au cauchemar?
Et non, malheureusement, on n'a pas plus de chiffres que celui que je vous ai cité et qui date d'ailleurs de 2004, donc qui est un peu ancien. Donc il se peut que le phénomène soit sous-estimé d'ailleurs, mais on n'a pas plus de chiffres. On aimerait bien en avoir plus. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas eu d'enquête plus large. On peut juste vous dire que 3 adolescentes sur 10, dont les parents sont issus de pays pratiquant traditionnellement l'excision, sont à risque.
On entendait tout à l'heure avec le témoignage de Finda Ifono, la loi du silence justement qui protège la perpétuation de cette pratique. Justement, couper cette loi du silence par des modes de communication, est-ce que ça marche ?
Ça marche. En fait, on s'aperçoit, nous, que quand on intervient dans les collèges, parce que cette campagne, elle est assez multiple, hein. Déjà, il y a des outils, vidéos, affiches, sites internet, et cette année, un nouvel outil qui est un chat, qui permet de libérer la parole de manière sécurisée, anonyme et gratuite. Donc on a des outils, et d'un autre côté, on intervient en milieu scolaire. On est intervenu déjà pour un peu affiner les messages avec les ados. Donc les ados eux-mêmes nous ont aidés à monter cette campagne. Et puis on continue d'intervenir pour diffuser un petit peu les messages. Et on se rend compte que les jeunes en parlent de plus en plus facilement.
Et que
avec nous.
Et que le message
et
passe.
Et le message passe, exactement.
Merci. Merci beaucoup Marion Schaeffer, je suis obligée de vous couper la parole, j'en suis vraiment désolée, parce qu'on va se retrouver dans 3 minutes pour juste après les informations avec nos invités. Vous restez avec nous, docteur Rada Hatem, docteur Sarah Abramovitch, Finda Ifono et Farah Jiba Kamano. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité, à l'occasion de cette 15e journée mondiale de l'excision, la prévention de l'excision.
Salut.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et Et on se retrouve pour cette deuxième partie de Priorité Santé consacrée aux mutilations sexuelles féminines à l'occasion de la Journée mondiale contre l'excision. Tolérance zéro avec nos invités. Finna Ifono, chef du projet Sauvons les filles de l'excision au sein de l'ONG Plan International en Guinée, qui œuvre pour la défense des droits des enfants, en compagnie aussi de Faradji Bakamano, directeur exécutif de l'ONG guinéenne La FASCO. Avec nous également le docteur Sarah Abramovitch, chirurgienne spécialiste en chirurgie réparatrice de l'excision à la maternité André Grégoire à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et puis le docteur Hada Atem, médecin-chef à la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Finda Ifono, combien d'années après l'excision avez-vous donc compris ce que l'on avait fait subir à votre corps?
10 ans après l'excision, j'ai compris que j'avais subi une pratique néfaste. C'est 10 ans après mon excision.
Vous en avez parlé à ce moment-là avec votre mère?
Comme je le disais tout à l'heure, le sexe est très tabou dans mon pays. Donc, c'est pas très facile de parler souvent du sexe avec ses grands-parents. Donc, il faut toujours partager avec ses amis ou il faut le vivre seul.
Ce qui est étonnant, c'est que vous nous dites le sexe, c'est tabou.
Ouais.
Pourquoi le sexe est-il tabou? Pourquoi est-ce qu'on dit que le sexe est tabou puisqu'on n'hésite pas à le couper, à le trancher, à l'exposer à une inconnue, cette femme qui va venir vous abîmer le corps? Pourquoi on parle d'un tabou puisque finalement, on y touche, voire même je ne sais pas comment dire ça, mais ça paraît étonnant de dire quelque chose est tabou alors que finalement, tout le monde sait qu'en fait, la communauté s'en empare d'une certaine manière. C'est l'intimité et tout le monde sait que finalement, toutes ces petites filles, je vais utiliser une formule un petit peu vulgaire, mais je vais le dire, vont y passer. Ça paraît un petit peu contradictoire de parler d'un tabou.
Mais si je parle de tabou, c'est bien la communication, au niveau de la communication, parce que on ne discute pas souvent du sexe avec ses grands-parents, avec son mari ou avec certaines personnes. Si je parle de tabou, c'est bien par rapport à la communication, mais pas du sexe, parce que le sexe ne peut pas être tabou. Du fait que l'excision, c'est pas une seule femme qui participe, c'est beaucoup de vieilles personnes que tu rencontres qui t'entourent et qui te mettent à nu pour passer à l'acte. Donc le tabou, c'est au niveau de la communication.
Docteur Hada Atem, votre maison des femmes a dédié l'une de ces 3 unités de soins justement aux femmes excisées. On le rappelle, cette pratique est d'abord destinée à brider la sexualité féminine. C'est ce qu'on voit dans tous les messages des auditeurs. Si une femme est excisée, hein, ils nous disent ça crûment, elle n'ira pas courir, elle n'ira pas voir ailleurs. Non seulement c'est faux, mais en plus, on a du mal à comprendre ce genre de discours, à l'entendre, à le lire.
On a du mal à l'entendre, mais on n'a aucun mal à le comprendre. C'est un discours qui est dans le prolongement de ce que l'homme a toujours voulu faire, c'est-à-dire maîtriser la sexualité des femmes et par là même maîtriser leur fécondité. Parce que si une femme ne va pas courir, et notamment si elle n'a pas de rapport avant le mariage, vous avez une petite garantie d'être le papa de ses enfants. Et donc la lignée est protégée. Et de tout temps, les peuples n'ont eu de cesse que de protéger la lignée et donc d'empêcher les femmes de vivre pleinement leur sexualité. Donc on comprend très bien, même si ça fait très très mal à entendre.
Mais ça fait mal aussi au corps, c'est cette incompréhension sur cette approche d'une sexualité dans la souffrance ou dans l'absence de sensation. Il y a quelque chose, une question qui se pose pour certaines femmes, à quoi bon avoir des rapports sexuels s'il n'y a ni désir, ni plaisir, voire même pire, s'il y a souffrance?
À quoi bon? Mais la femme est un être extrêmement docile. Elle sait qu'elle est là pour reproduire l'espèce. Donc elle va pas se demander à quoi bon avoir des rapports. Elle va avoir des rapports parce qu'elle veut des enfants. Parce que si en plus vous ne donnez pas d'enfants à la communauté, vous êtes moins que rien. Donc déjà, se reproduire est pour elle une nécessité vitale. Donc elle va avoir des rapports. Et puis certaines femmes ont quand même du plaisir. Toutes les femmes excisées n'ont pas de plaisir. Mais l'excision agit parfois comme une amputation mentale, c'est-à-dire que parfois l'excision a été relativement minime, le clitoris on le sent très bien, quand la femme accepte de le stimuler, elle a des sensations, mais en même temps, elle se sent amputée, et donc sa sexualité en est affectée. Et puis, comme le disait Finna, on ne peut pas parler de sexualité avec ses parents, on ne peut pas en parler dans son entourage. Moi j'ai des femmes qui n'ont jamais parlé à personne de ce qu'elles ressentent, de leurs inquiétudes, et c'est pour ça aussi qu'un lieu de parole est un premier pas vers le soin.
La parole très importante. On va justement donner cette parole à l'une des auditrices de Priorité Santé. Elle est en ligne avec nous. C'est Anna. Anna, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de région parisienne. Est-ce que vous pouvez nous livrer justement le témoignage? Tout à l'heure, nous avons parlé et vous nous avez un petit peu raconté ce qui vous est arrivé. On vous écoute.
D'accord. En fait, je suis guinéenne aussi et j'ai 23 ans aujourd'hui. J'ai été excisée vers 8-9 ans. Et contrairement à tout le monde, moi, j'ai pas été excisée justement par des exciseuses, mais par un médecin. Et je n'ai pas été amenée quelque part. Ils sont déplacés pour venir chez moi.
Et votre famille était présente quand ça s'est passé? Il y avait des gens dans la maison également?
Oui, en fait, pendant les grandes vacances, on a l'habitude de partir dans mon village, en fait, pour les grandes vacances avec mes parents. Mais cette fois-là, j'avais juste été avec ma sœur. Mes parents devaient nous rejoindre un peu plus tard. Seulement un matin, on s'est réveillés comme tous les matins, mais on faisait notre toilette normalement. Et on était dans une maison, mais on vivait seul avec ma sœur et notre nounou dans une grande maison. Pas dans la même cour que mes grands-parents, mais pas dans la même maison, en fait. Et ma mère qui était arrivée quelques jours avant. Donc, le matin, on s'est réveillé, on voulait sortir de la maison, mais on a vu des femmes rentrer dans la maison et elles ont fermé la porte et elles ont refusé de nous laisser sortir. Et en fait, on a compris qu'il se passait un truc qui n'était pas normal avec ma sœur. On a demandé à ce qu'on ouvre la porte pour qu'on nous laisse sortir, mais elles n'ont pas voulu. Et c'était le médecin et l'une de mes grandes-tantes. Et voilà, on est passé à la casserole, comme on dit.
Et quand est-ce que vous avez pris conscience de ce qui venait de vous arriver?
J'en ai réellement pris conscience quand je suis arrivée en France, parce que quand je vivais en Guinée, sur toutes les amies que j'avais, j'en avais qu'une seule qui n'avait pas été excisée. J'avais une centaine d'amis, mais il n'y en avait qu'une seule qui n'avait pas été excisée. Et on en avait parlé, enfin, on n'en avait pas vraiment parlé, c'est juste sorti lors d'une conversation, et c'était tout, on n'en avait jamais parlé. C'est quand je suis arrivée ici en France que j'ai réalisé ce qui m'arrivait et que j'ai réalisé que je me rappelais de tout, mais absolument de tout, mais surtout de toutes les sensations que j'ai ressenties. En fait, pas seulement des détails de comment ça s'est passé, mais de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti et que j'avais... Je me rappelais exactement de tout, en fait.
Et au-delà de ces souvenirs, qu'est-ce que ça a modifié dans vos relations amoureuses?
Bah, énormément, parce que j'ai un énorme blocus, en fait. J'ai eu du mal à avoir un premier rapport parce que je savais que j'étais pas normale. J'ai une phrase que je répète tout le temps. C'est que je sais que je ne suis pas normale. On m'a enlevé quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, j'ai été consultée. Enfin, j'en ai parlé à ma gynécologue qui m'a justement écoutée. Et c'était la première fois que j'en parlais réellement et j'ai craqué. Et elle m'a justement conseillé de voir un psychologue. Elle m'a donné le numéro, mais j'ai jamais osé, j'ai pas pu, parce que j'ai peur de ce qu'on pourrait me dire. Je sais que je ne suis pas normale, je sais qu'on m'a pris quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose qui manque en moi, mais je ne sais pas ce que c'est.
Docteur Rada Hatem, on a écouté ce récit de Anna. On entend bien la souffrance psychique avec ce terme qui revient, et ça paraît ambigu par rapport à tout ce qu'on a dit. On a dit l'excision pratiquée au nom de la norme, et les femmes qui la subissent, qui dans leur chair ne se sentent et dans leur corps ne se sentent pas normales. Qu'est-ce qu'on peut dire à Anna par rapport à ce sentiment d'anormalité?
La première chose que je dirais à Anna, si je l'avais en face de moi en consultation, c'est qu'elle est une femme, tout ce qu'il y a de plus normal. Et qu'on lui a coupé un morceau de chair qui doit faire à tout casser un demi-centimètre, et que ce n'est pas ça qui fait ou non la femme en elle. Mais oui, la norme, elle est sociale. Vous n'êtes pas normale en Guinée quand vous n'êtes pas excisée. Vous n'êtes pas normale en France quand vous êtes excisée. J'ai une amie qui travaillait au Sénégal pendant quelques années et qui me racontait que les petites filles qui pleuraient n'étaient pas celles qu'on emmenait à l'excision, mais celles qu'on n'emmenait pas, parce que c'était pas encore leur tour de faire la fête. Donc, une société peut imposer sa norme et faire passer pour normal une coutume qui, quand on l'interroge, finalement ne repose sur aucune justification. Mais elle est perpétrée depuis tant d'années qu'elle est la norme.
Et justement, pour retrouver cette intégrité physique, sans d'ailleurs passer forcément par la chirurgie, même si on va en parler tout à l'heure avec vous, docteur Sarah Abramovitch, comment reprendre justement cette confiance en soi. Tout à l'heure, on entendait que cette auditrice, on lui avait conseillé, Anna, d'aller voir une psychologue. Est-ce que c'est quelque chose que vous lui conseilleriez à nouveau, justement, même si elle n'avait pas osé franchir ce pas ?
Absolument. Pour reprendre son destin en main, il faut se réparer. Et se réparer, ça commence par la tête. Ces jeunes femmes, elles sont dans un état de stress post-traumatique, un peu comme après un attentat, par exemple. Elles ont vécu un truc hyper violent, inattendu, inexpliqué. C'est exactement quand on vous tire dessus dans la rue et que vous y attendez pas. Donc elles sont dans le même état. Sauf que elles ne peuvent pas en parler, parce que chez elles, on n'en parle pas. Donc, il faut commencer par les aider à sortir de ce stress. Elles ont des flashs, elles ont des cauchemars, certaines situations leur rappellent immédiatement l'excision. Donc, il faut déjà faire ce chemin avec elles. Ça ne sert à rien de les opérer avant. Il faut aussi qu'elles comprennent la sexualité. Beaucoup de femmes ont des idées assez erronées. Elles pensent que les préliminaires, ça dure 32 secondes. Et quand notre sexologue leur explique que même chez une femme blanche non excisée, il faut parfois 15, 20 minutes, elles se disent « Ah bon, mais alors je suis normale ». Donc tout ce travail autour de « Oui, vous êtes normale, même s'il vous manque un petit bout de chair, et même si on vous a agressé très méchamment », est un travail fondamental.
Anna, ces conseils du docteur Rada Hatem, d'ailleurs on mettra à la fin de notre podcast sur le site RFI.fr, on mettra toutes les références, notamment l'adresse de la maison des femmes de Saint-Denis, si jamais vous voulez vous tourner vers cette structure. Merci beaucoup en tout cas, Anna, de votre témoignage.
Merci à vous.
Merci infiniment. Justement, ce parcours de réparation, on vient de parler de la réparation psychologique, même si on pourrait y consacrer bien sûr beaucoup plus de temps. Réparation physique, certaines femmes optent pour la reconstruction, c'est un long parcours. Docteur Sarah Abramovitch, justement, parcours à la fois chirurgical et là encore, parcours psychologique.
Oui, c'est un parcours, on y tient beaucoup, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on sait très bien que réparer une femme chirurgicalement, ça permet d'avoir un néoclitoris fonctionnel, mais que ça n'a pas un grand intérêt s'il n'y a pas eu une réparation psychologique, sexuelle, sociale, associée. Comme on le disait, c'est des femmes qui renoncent à leur tradition, qui renoncent à une norme sociale au pays. Donc il faut aussi qu'elles acceptent et que pour elles ce soit un acquis, que ce soit une fierté d'être reconstruite. Et c'est très important pour ces femmes-là, parce que les femmes qui ont été opérées juste en bloc opératoire pendant le temps de l'opération et qu'on revoit plus ni qu'on n'a pas vu avant et qu'on revoit pas après, on se rend compte qu'elles ne sont pas réparées si ce n'est physiquement.
Finda Ifono, la reconstruction après excision, est-ce que c'est quelque chose qui est connu en Guinée ?
La reconstruction après excision n'est pas tellement connue en Guinée. Et d'ailleurs, je dirais que même s'il y a des réparateurs, ils ne sont pas connus. Donc, c'est pas un phénomène du tout connu. Nous, en tant qu'activistes, nous privilégions beaucoup plus la prévention. Il faut pas que l'excision, elle arrive. Et c'est là notre lutte. Il faut pas que l'excision, elle arrive.
On a autour de cette table un homme qui parle de l'excision, Faradji Bakamano. Finda Ifono, est-ce que vous en parlez, vous, avec votre époux?
Oui, moi, je parle avec mon époux de sexe. Et ça, d'ailleurs, là, ma chance, parce que j'ai eu un époux tolérant, malgré que je suis une victime de l'excision. Donc, je parle de sexe, je lui dis ce que j'ai traversé, et il m'accepte avec ça.
Il vous accepte, mais est-ce que, sans parler crûment, sans rentrer dans votre intimité, justement, on est différent quand on est capable d'en parler, et du coup, ça fait peut-être un petit peu moins mal d'être aussi avec un homme qui est capable de parler de ces choses-là.
Oui, on est différent quand on peut l'en parler à son mari. On est différent parce que il n'arrive pas trop. Tout à l'heure, je le disais que la communication autour du sexe n'est pas une chose aisée dans mon pays. Donc, je me sens déjà heureuse si moi j'ai eu un mari avec lequel je peux parler de mon sexe et qui peut être tolérant malgré qu'il sait que pendant une étape de ma vie, on m'a ôté de quelque chose qui pouvait lui être intéressant. Parce que ça lui permettrait d'avoir le plaisir et de se maintenir avec moi à la maison.
C'est bien ça aussi, parce que cette fameuse mythologie de la femme qui ne va pas voir ailleurs, peut-être que quand elle a davantage de plaisir, elle a encore plus envie de rester avec un mari aimant. Farajiba Kamano, vous insistez justement sur ce rôle que peuvent jouer les hommes dans la prévention, parce qu'aujourd'hui, hein, les défenseurs de l'excision le disent, c'est une histoire de femmes, on tourne la tête des femmes, mais finalement, c'est carrément une histoire d'hommes aussi.
En effet, c'est une histoire d'homme dans la mesure où l'homme et la femme doivent vivre ensemble, ils sont mariés et femmes. Et voyez-vous, quand on décide de minimiser la sensibilité de la femme, alors que l'homme a toute sa sensibilité naturelle, c'est un déséquilibre concret déjà dans la vie du foyer, parce qu'il y aura plus de demandes que d'offres. Et là, c'est l'homme qui est aussi victime d'une conséquence aussi de ce refus. Et psychologiquement, l'homme aussi en souffre beaucoup. C'est pourquoi j'aime dire que les hommes aussi sont d'autres victimes. Parce que quand tu vis avec une femme qui n'a pas toute sa sensibilité, c'est déjà un problème que l'homme va vivre à la maison.
Justement, un témoignage, un Raïs Burkina Faso, il nous envoie un message Facebook. Je suis contre cette pratique, je suis mariée à une femme excisée. Ça nous cause beaucoup de problèmes car elle ne ressent rien du tout quand on fait l'amour. Et d'ailleurs, elle n'en a pas envie. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais après consultation, on m'a fait savoir que c'était à cause de l'excision. Autre message, Ozana du Tchad. J'ai une femme excisée, c'est difficile. Elle n'éprouve pas de sensation lors de nos rapports. Parfois, elle me prive de son corps. Je trouve que l'expression rappelle exactement ce que vous venez de dire. Elle me prive de son corps parce qu'elle n'a pas besoin d'homme. C'est tout l'inverse. On ne voulait pas que les femmes aillent voir d'autres hommes. Finalement, elles n'ont plus envie de voir personne. Ça passe par qui ? Vous parlez justement de ces acteurs de terrain. Est-ce que ça passe par le village ? Est-ce que ça passe par la famille Farajiba Kamano de faire changer les mentalités ?
En effet, ça concerne tout le monde dans la mesure où l'excision est une norme sociale. Et si nous analysons les théories du changement de la norme sociale, c'est qu'il faut aller avec tout le monde. Aucune personne, un seul groupe ne peut pas. Dès lors, ce qui veut dire que la famille est intéressée. Et dans la famille, dans la notion d'excision, il y a deux personnes qui sont en jeu. Il y a celui qui offre le service et celui qui demande le service. C'est la communauté qui demande. Et c'est l'exciseuse et l'agent de santé qui offre le service, par exemple, pour le cas de la Guinée. Dès lors, ce qui veut dire, il faut agir sur la demande. La demande ici, il faut expliquer à la fille. Il faut expliquer à la fille ce tabou qui est caché que Finda vient de relever. Il faut dire la vérité à la fille. Pour dire, quand tu pars à l'excision, voici ce qui t'arrive. Et que la fille aussi puisse dire non. Il faut expliquer aussi au père de famille. Pour dire, ta fille, quand tu la laisses avec tout le paquet que tu vas mettre sur lui, voici ce qui peut l'arriver. Donc là aussi, lui aussi, il décide. Et en amont aussi, il faut travailler avec l'exciseuse pour lui dire, ben écoute, et l'agent de santé, ce que tu fais, voici, ça n'a plus de valeur ajoutée. Et est-ce que tu peux changer de rôle dans la communauté? Au lieu d'exciser, est-ce que tu peux faire autre chose qui puisse y amener? Et ça, c'est là un peu l'éducation sans excision.
Aider aux naissances, aider pour la prime enfance des bébés.
Bien sûr.
Il y a plein de rôles à assumer de ces femmes qui peuvent avoir un savoir-faire par ailleurs.
En effet.
Justement, Finda Ifono, vous soulignez, les exciseuses, elles ont quand même un statut social important dans la communauté. Renoncer à exciser, c'est aussi renoncer à une forme de pouvoir.
Oui, les exciseuses traditionnelles ont un pouvoir dans la communauté parce qu'elles sont craintes. Et du fait qu'elles soient craintes, elles n'aimeraient pas renoncer à l'excision parce qu'elles ne trouveraient pas une autre place. Mais au fait, nous, les exciseuses reconverties que nous avons, nous agissons, comme le dit Guiba, sur l'offre du service à travers le renforcement des capacités des exciseuses. Et ces exciseuses sont utilisées comme des éducatrices. Donc, nous avons un certain nombre de filles qui passent les rites alternatifs sans excision et qui sont accompagnés par ces exciseuses reconverties. Donc, une façon de les revaloriser, une façon de les prendre comme des éducatrices, au plus que des chirurgiens qui viennent pour couper l'organe essentiel de la femme. Elles sont utilisées comme des éducatrices pour transmettre les valeurs traditionnelles à ces filles que nous voudrions protéger contre l'excision.
Votre grand-mère était exciseuse?
Oui, ma grand-mère était une grande exciseuse. Et du coup, ma position d'activisme était une façon de trahir la position de la famille. Donc, c'était pas aisé.
Et vous aussi, Farajiba Kamano, vous avez entendu ce mot, trahison?
En effet, j'ai entendu ce mot trahison. C'est d'ailleurs l'une des valeurs essentielles de mon implication dans la dynamique, parce que j'ai ma mère qui est une grande activiste aussi dans le domaine, qui était aussi une sage-femme à la retraite et qui a travaillé longuement sur ce sujet quand elle a compris les conséquences et tous les enjeux liés à cela. Donc elle a été injuriée, elle a été mise en quarantaine dans la communauté, et c'est une grande sanction sociale quand on te dit que tu es écarté de la vie communautaire. Et donc c'est un coup, c'est un choc pour elle, et elle n'arrivait pas à tenir à la maison, et finalement elle était abandonnée de tous, et elle voulait continuer le travail, elle n'avait pas d'associé. Donc finalement elle m'a tirer la main pour venir l'épauler. Et c'est comme ça. Et elle m'a impliqué dans la dynamique. On a travaillé sur les approches et jusqu'à aujourd'hui.
Farah Djibakamano, il y a vraiment cette dimension justement de dialogue entre les générations, un message à faire passer auprès des anciens. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de rupture entre générations, entre vous, jeune homme, trentenaire, j'ai l'impression, qui milite justement contre, risque de se couper avec, pas les traditions, j'emploierai pas ce terme, mais avec l'autre génération?
Bien sûr, il y a un conflit intergénérationnel autour de l'excision. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi son problème. C'est que quand tu fais la consultation, c'est les plus jeunes qui veulent que l'excision soit arrêtée et abandonnée. Et les anciens veulent encore continuer avec les bonnes pratiques. Pour eux, que l'excision est encore une bonne pratique qu'il faut continuer à conserver. Et ça, et ces opinions divergentes font qu'il y a un fossé entre la jeune génération et la nouvelle génération du point de vue conception de l'excision. Mais aujourd'hui, c'est le dialogue qui peut remplir ce fossé. C'est le dialogue qui peut ramener les deux ensemble pour comprendre que chaque génération a une valeur ajoutée, mais aussi que chaque génération a des faiblesses. Et l'excision est une faiblesse de l'ancienne génération. On peut aussi, l'éducation et le renforcement du tissu social et tout ce qui est valeur positive sont aussi des forces de l'ancienne génération qu'on pouvait aussi échanger. Et bien sûr que l'un peut tirer profit de l'autre. Et c'est ce qui, d'ailleurs, on utilise le dialogue intergénérationnel, qu'on appelle le DDG, et qui est aussi une approche qui nous permet de rassembler les jeunes filles, les jeunes garçons, les hommes âgés, les femmes âgées. Ils vont passer tout un cycle de travail durant un an et demi. Ils sont en train de travailler, de discuter sur ces sujets dont nous jugeons être tabous. Et il y a une ouverture et les gens vont proposer des solutions pour prendre des grandes décisions. Abandonner par exemple l'excision, abandonner le mariage précoce, le mariage d'enfants, abandonner l'exploitation de l'enfant. C'est là que les gens prennent des décisions, parce que c'est les mêmes personnes qui ont décidé d'exciser, c'est les mêmes personnes qui vont aussi décider d'arrêter d'exciser.
C'est le pouvoir. Docteur Rada Hatem, rompre avec les usages, pour certains c'est quand même le risque de se mettre au banc de la communauté. Comment justement permettre de dépasser cette crainte? Par exemple, quand on parle des jeunes filles qui vont passer les vacances au pays ou dans le pays d'origine des parents, de la famille, retrouver cette identité quand on est différent des autres, c'est toujours très compliqué.
Oui, parce que certaines sont accusées d'être blanchies dans leur tête, d'avoir été contaminées par l'Occident, de renoncer à leurs valeurs originelles, et c'est très douloureux pour elles. C'est pour ça que le combat pour l'abolition est le combat le plus essentiel. Réparer, c'est bien, mais ne pas couper, c'est mieux. Et je profite de l'antenne pour reparler de ce travail qu'a fait Alerte, enfin qu'a fait la plateforme Excision, parlons-en. Ce message Alerte Excision est fondamental, parce que les jeunes filles ne savent pas forcément ce qui les attend quand elles retournent au pays. Donc, si on veut travailler main dans la main avec les communautés, il faut aussi qu'en France, on accompagne le mouvement. Et on aimerait, avec Marion Schaeffer notamment, pouvoir ouvrir le dialogue avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Éducation, pour leur dire, vous êtes responsable aussi. Vous êtes responsable de la prévention. C'est de la santé dont on parle. C'est de l'éducation. Et on aimerait les inviter à une rencontre. Et pour le moment, on n'a pas réussi à les interpeller.
Il faut continuer le travail. En tout cas, il y a des affiches, par exemple, dans les infirmeries scolaires, ce genre de choses, diffusion au moins d'images. Comme ça, les jeunes filles qui ont l'occasion de se rendre dans ce genre de structure sont alertées, peut-être sont amenées même à poser des questions. Il y a peut-être un véritable travail de terrain à faire aussi dans toutes les structures scolaires.
Absolument. Et dans les écoles, nous recevons parfois à la Maison des Femmes des groupes d'adolescents de nos lycées et collèges où il y a une forte communauté africaine. Et on leur parle et on voit que parfois, personne ne leur n'a jamais parlé. Les garçons sont très mal à l'aise, ils ricanent, c'est compliqué. Mais il faut faire ce travail, il faut des affiches. Alerte Excision a fait une très chouette petite vidéo, a ouvert un chat. Moi, je vais voir aussi dans des différentes villes des communautés de femmes africaines et on passe l'après-midi à discuter du sujet. Parfois, il y a un homme, parfois pas. C'est fondamental.
On mettra tous ces liens sur notre site RFI.fr, Priorité Santé. Finda Ifuno, je vous laisse le mot de la fin. Vous militez contre l'excision sur le terrain. Vous avez une petite fille. Votre engagement, c'est aussi celui de sauver cet enfant de ce que vous avez vécu. Est-ce que vous lui en parlerez?
Bien, si je peux dire que c'est la plus grande décision de ma vie que j'aurais prise, le fait de sauver cette petite fille de 2 ans, 3 mois aujourd'hui de l'excision. Donc, mon combat tourne autour de ça. Et pour le faire, je suis en train d'agir sur mon mari, sur mes tantes, sur mes sœurs et sur tout le monde. Et je sais que cette fille, elle sera écartée de l'excision.
Ça veut dire, vous leur dites quoi? Et comment êtes-vous sûr que ça n'arrivera pas?
Et ma communication tourne autour de 3 sujets, les conséquences, la religion et le fait que ça soit une pratique traditionnelle qui n'a plus de valeur.
Merci infiniment, Finda Ifonou. Merci d'avoir participé à notre émission à l'occasion de cette journée mondiale contre l'excision, tolérance zéro. Je rappelle que vous êtes chef de projet Sauvons les filles de l'excision à Plan International Guinée. Merci à vous d'être venu dans les studios de Priorité Santé. Faradjiba Kamano, directeur exécutif de l'ONG d'accompagnement des forces d'action socio-communautaire. Et à vous, mesdames, docteur Hada Atem, médecin-chef de la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, et docteur Sarah Abramovic, chirurgienne spécialiste en chirurgie réparatrice de l'excision et des mutilations génitales féminines à la maternité André Grégoire à Montreuil. Pour connaître les références des différentes associations, on l'a dit, des sites internet que vous animez les uns, les unes et les autres. L'adresse du site aussi de la campagne Alerte Excision pour la prévention des adolescentes en France. Rendez-vous bien sûr sur RFI.fr. Toutes les indications sur notre site Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui prépare Priorité Santé. Demain, nous parlerons des groupes de parole.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous recommande l'assurance mixte pour protéger celles et ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.